La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Il y a un an à peu près, le 14 mai 2018, disparaissait l'écrivain Tom Wolfe à l'âge de 88 ans dans cette ville de New York qui lui plaisait tant parce qu'on y respire l'ambition et les luttes de pouvoir qu'il aime dépeindre dans ses livres. Né en Virginie, dans une famille de la classe moyenne, il a connu une enfance heureuse, puis une vie guidée par la volonté de n'appartenir à aucune école, à aucune meute. Il était à la fois indépendant et individualiste, comme nous l'a raconté hier Nicolas Hidier, qui fait paraître dans la collection bouquins des éditions Robert Laffont un volume regroupant ses deux premiers romans. Et l'autre actualité éditoriale de la semaine, c'est l'apparition de White, le dernier livre de Bret Easton Ellis, toujours aux éditions Robert Laffont. L'occasion pour nous de revenir à partir de demain sur la vie et l'œuvre de cet écrivain toujours actif, mais qui a déjà atteint le statut de classique moderne. Son traducteur Pierre Guglielmina reviendra donc sur son parcours dans l'émission de demain, puis le journaliste et écrivain Alexis Broca analysera les grands thèmes de son œuvre jeudi. Et aujourd'hui ?
Restless feeling by my side.
Aujourd'hui, en seconde partie de cette émission, nous serons avec Eric Neoff qui viendra nous donner son avis sur l'auteur du Bûcher des Vanités et de il court le Bauhaus. Mais dans cette première partie, nous sommes avec vous. Eric Neveu, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à Sciences Po Rennes où vous faites un cours sur ce nouveau journalisme qui a donc émergé dans les années 60 aux États-Unis et dont on peut dire que Tom Wolfe en est le promoteur et peut-être même l'impresario.
Oui, l'inventeur, l'impresario, le metteur en scène, enfin, à la fois parce qu'il est un des premiers à renouveler cette écriture journalistique, à utiliser différemment des supports de format long. Et puis parce qu'une dizaine d'années plus tard, là on va être en 73, il est le co-auteur d'un étrange livre qui est à la fois un manifeste, un code qui dit comment on fait, et une anthologie des choses qui se télescopent rarement, mais c'est un mélange à la Wolfe, oui.
Donc on va parler avec vous de son inscription dans ce qu'on a appelé le nouveau journalisme. Il y a un nom qui vient aussi peut-être un petit peu avant celui de Wolfe, dans cette tradition qui mêle journalisme et littérature, c'est celui de Truman Capote. Est-ce que pour vous, il y a une très grande différence entre De sang-froid, dont l'idée était de faire un récit véridique d'un meurtre multiple et de ses conséquences, qui date de 1966, et l'œuvre de Tom Wolfe, Éric Neveu?
Bon, il y a sans doute des différences stylistiques. La métaphore qui vient souvent sous beaucoup de plumes, c'est la pyrotechnie d'écriture de Wolfe.
Ça veut dire quoi, pyrotechnie, en l'occurrence?
Je dirais c'est à la belle bleue, à la belle rouge, à la belle jaune, c'est-à-dire ce goût des formules, des changements de rythme.
Pour impressionner le lecteur?
Pour captiver le lecteur, oui, je pense que c'est basculement d'un langage d'une écriture très formelle, très correcte, à des choses qui sont du langage parlé ou des onomatopées. Enfin, il y a y compris quelques reportages où, en termes de typographie, on voit des phrases qui zigzaguent sur la page. Et puis, bon, il a un sens des métaphores qui est quand même assez prodigieux et inventif, et il a pas peur de les empiler. Alors, pour revenir à Truman Capote, je dirais que c'est un peu deux trajectoires qui se rencontrent. C'est-à-dire, d'un côté, il y a des gens qui se définissent professionnellement comme journalistes et qui prétendent emprunter à la littérature et au roman un certain nombre de techniques d'écriture. Et puis, de l'autre, des gens qui se définissent plutôt comme des écrivains et des romanciers, mais qui veulent rentrer dans la non-fiction. Et le point commun étant, au fond, que le reportage est la forme d'accomplissement suprême de la littérature moderne à l'époque. l'époque où ces gens écrivent.
Mais là, on a avec Tom Wolfe une œuvre vraiment double, une œuvre de journaliste et une œuvre d'écrivain, alors que Truman Capote est quand même identifié à la littérature seulement.
Oui, encore que, alors je ne suis pas spécialiste de Capote, mais il faudrait regarder tout ce qu'il a écrit dans le New Yorker, est-ce qu'il n'y a pas des choses plus hybrides que ça?
Il y a des portraits, beaucoup.
Ouais, peut-être. C'est-à-dire qu'effectivement, chez Wolfe, c'est relativement explicite les boîtes de rangement, encore que, si on prend Acid Test, c'est publié comme un récit, mais c'est vraiment un récit qui a toutes les caractéristiques d'un reportage, donc il y a toujours cette ambivalence, quoi.
Donc dans l'anthologie que vous avez déjà évoquée et dont on va pas mal parler, intitulée « Nouveau journalisme » par Tom Wolfe et présentée au public en 1973, Wolfe affirme que le nouveau journalisme a remplacé le roman dans sa fonction traditionnelle consistant à décrire la réalité sociale contemporaine. Vous qui êtes sociologue.
Ben c'est, en fait, il a toute une description, enfin, que je soupçonne d'être très intéressée et très stylisée, disant en gros que la littérature a déserté le réel, qu'elle est psychologique, qu'elle est abstraite. Enfin, il invente des catégories extraordinaires. Il a une littérature catatonique de l'immobilité, je ne sais pas trop à qui ça réfère. Et que, au fond, dit-il, presque par accident ou par espèce d'effet sérendip, ces journalistes dont il fait partie, qui voulaient simplement faire de bons reportages réalistes, ils ont mis la main sur le réel et sur le côté juteux et savoureux de la société américaine, à l'égard de laquelle les écrivains de tradition auraient tourné le dos. Je ne suis pas sûr qu'un historien de la littérature acquiescerait à cette description, mais enfin, c'est ce que dit Wolfe. Oui.
Et puis c'est pratique de créer des oppositions comme celle-là quand on est un entrant dans le champ, puisque vous expliquez que, en effet, si on l'étudie de manière sociologique, peut-être même bourdieusienne, je ne sais pas, Tom Wolfe est quelqu'un qui doit faire sa place, finalement, comme un outsider doit le faire dans un champ donné, qui est le champ journalistique.
Oui, tout à fait. Enfin, on a typiquement les tactiques, entre guillemets, de subversion des entrants, qui consiste à rappeler les valeurs sacrées d'une profession. En l'occurrence, bah, être journaliste, c'est sortir des bureaux, c'est faire ce qu'on appelle du legwork, marcher dans les rues, aller enquêter, c'est savoir écrire, toute chose qui aurait déserté la pratique du journalisme. Y compris, alors ça c'est le petit scandale qui déclenche en s'attaquant au New Yorker, à un moment où il contribue avec d'autres à lancer une revue qui s'appelle un hebdo qui s'appelle New York, qui n'est pas le New Yorker, il va tirer à boulet rouge sur le New Yorker en expliquant que c'est une espèce d'institution momifiée, que ça a peut-être été le foyer d'un journalisme plus inventif, plus près des réalités, mais que tout ça est bien fini, quoi.
Donc en tant qu'entrant, son intérêt, c'est de se placer du côté de la pureté, finalement.
Absolument. C'est de se placer du côté de la pureté, de montrer que tout ce qui est institué, ancien, eh bien, est tombé en léthargie, dans les routines, a abandonné les valeurs sacrées de la profession. Mais c'est ce qu'on retrouverait en peinture ou dans tout un tas d'autres activités, peut-être dans le champ académique aussi. Et de ce point de vue-là, le fait de sortir un manifeste, c'est aussi une façon de former les rangs, enfin, dire le manifeste dans lequel il enrôle, alors ils ont forcément accepté, mais un certain nombre de journalistes dont il n'est pas sûr qu'ils soient tous en parfaite cohérence avec ce qu'ils donnent comme le cahier des charges du New Journalism.
En l'occurrence, Tom Wolfe va avoir beaucoup de succès et il deviendra lui-même dominant dans le champ. Et là, il va finalement être un écrivain installé, un journaliste installé, ou est-ce qu'il cherchera, selon vous, toujours à se positionner comme étant un petit peu marginal, Éric Neveu?
Alors effectivement, il va atteindre assez vite la consécration, en fait, dès les années 60. Si on voit que ces recueils de reportages sont édités par Farrar, Strauss et Giroux, c'est un peu comme d'être dans la blanche de Gallimard en France. Mais c'est un personnage qui cultive le dandy. Enfin, je dirais qu'il suffit de taper Tom Wolfe sur un moteur de recherche et de regarder le dress code, où il est toujours dans un magnifique costume grège ou beige avec son chapeau sa pochette. Enfin, il y a vraiment toute une mise en scène du personnage, ou un art de jouer sur les entretiens avec la presse. Donc, à la fois, il va être consacré, mais je dirais qu'au début, mais il l'écrit expressément, il se présente comme étant dans un prolétariat du journalisme, ce qui fait franchement rire. Et la manière de rester un peu en rupture ou de se distinguer, ça va être le dandysme, mais ce qui n'ôte rien à son immense talent.
Do I have to change my name? Will it get me far? Should I lose some weight? Am I gonna be a star?
La compagnie des auteurs sur France Culture. Nous sommes avec Éric Neveu pour parler de Tom Wolfe et du journalisme intitulé New Journalism à la frontière, donc avec le roman. Alors le rapport de Wolfe avec le journalisme, il faut revenir un petit peu dans sa biographie pour le comprendre. Il était le fils d'un agronome, mais qui lui-même était rédacteur en chef d'une revue professionnelle, The Southern Planter. Donc c'est plus ou moins un fils de journaliste aussi, Éric Neveu.
Bah, c'est en tout cas le fils de quelqu'un qui a un rapport étroit à l'écriture, c'est-à-dire il voit son père recevoir des articles, corriger des épreuves, en écrire, j'imagine, si, même s'il est rédacteur en chef. Bon, le récit officiel qu'il a peut-être entretenu lui-même, ça c'est de bonne guerre, nous dit que très tôt, il écrivait, il avait un rapport à l'écriture, parce que c'était un gamin unique et qui a dû être très fortement porté par les parents. Il a ensuite, à l'université, été investi dans le journal des étudiants de son université. Il a fait une thèse de littérature qui devait être sur une association d'écrivains communisants aux États-Unis dans les années 30.
Oui, ce qui est un peu étonnant d'ailleurs, quand on connaît ses options qui sont plutôt de droite. Plus tard, il soutiendra George Bush.
Oui, mais je pense qu'il y a chez lui une forme de fascination pour des choses subversives. Enfin, il y avait une formule très méchante de Hunter Thompson qui disait que ce qui fascinait Wolfe, c'était les gens qui étaient en dehors des clous, qui étaient subversifs, mais qu'il ne pouvait pas vraiment communiquer avec eux, et que les gens avec qui il s'arrangeait, je reprends la formule de Thompson, étaient gays comme des étrons de chien. Mais je pense qu'il y a chez lui, oui, une fascination, une attirance, spécialement dans les années 60-70, bah pour tout ce qui fait bouger la culture, les styles de vie, et il est dans un... Peut-être que la fascination à ce moment-là l'emporte sur la répulsion ou l'antipathie, mais c'est toujours très ambivalent. Je pense à ce reportage radical chic où il rencontre d'une partie organisée par Leonard Bernstein dans son bel appartement new-yorkais pour lever des fonds pour les Black Panthers. Bon, quelle est la part de... où il enjolive, où il stylise ce qu'il a vu, j'en sais rien. Mais on sent à la fois une fascination, et puis il est très agacé par ces libéraux, s'ils pensent qu'ils sont manipulés par les panthères, quoi.
Alors on va écouter justement un extrait de ce texte.
La société new-yorkaise d'aujourd'hui est le genre d'élite qui n'a aucun style de vie qui lui soit propre. La société, la minorité qui édicte les bonnes manières, est aujourd'hui une aristocratie de publicité. De moins en moins de personnes aujourd'hui font partie de la bonne société à cause de leurs ancêtres ou de toute autre forme de statut social héréditaire et immuable. Ils en font partie parce qu'ils ont du succès. Ils ont triomphé dans leur carrière et se sont fait de la publicité de cette manière. Les carrières sont assez diversifiées, bien qu'elles se recrutent de plus en plus dans les nouveaux domaines de l'information et de la communication. La télévision, le show business, l'édition, les arts, la publicité. Tous ces gens n'ont aucun terrain, aucune tradition en commun qui pourrait leur donner un nouveau style de vie. Et pourtant, comme tous les groupes de statut, la nouvelle bonne société new-yorkaise a besoin d'un nouveau style de vie. Il n'y a que par le style qu'un groupe de statut puisse affirmer publiquement sa position et démontrer qu'il est unique. Mais où diable les trouver, ces styles ? La vie américaine devient de plus en plus homogénéisée dans son centre de décision. Des styles uniques tendent aujourd'hui à se développer dans divers groupes marginaux empreints de religiosité, souterrains, rejetés, des groupes de parias. Par exemple, les jeunes, les artistes, les bohémiens ou hippies, les noirs, les drogués, les homosexuels, et les campeurs culturati. Après avoir été rejetés, ils se sont ramassés en petits groupes de statues autonomes et ont créé leur propre style de vie de manière à se soutenir le moral. Et maintenant, ne voilà-t-il pas que les mondains viennent les emmerder à venir fouiner parmi eux, leur chipant leur genre, visitons les taudis, de la manière la plus exquise.
C'est du gauchisme de Park Avenue, lu par Georges Magnan. Qu'est-ce que ça vous évoque, Eric Neveu?
Cette ambiguïté, fascination, répulsion. Et puis, bon, c'est quand même l'obsession de Wolf pour le status au sens de position symbolique. Au fond, c'est un monde social qui est moins défini en termes de classe ou d'inégalité matérielle et économique qu'en termes de perception dans le regard des autres, de statut symbolique. Ce qui est sans doute à la fois très américain, puisque cette idée que l'Amérique est une société où il n'y a pas vraiment de classe sociale, ce qui est peut-être aussi quelque chose qui est lié aux années 70 où les styles de vie bougent, où les cartes se brouillent. Mais par le plus grand des hasards, j'ai dû trouver il y a 15 jours, en faisant d'autres recherches, un papier de l'American Journal of Sociology qui s'intitulait « Why liberals drink latte ?» Pourquoi est-ce que les intellectuels libéraux boivent des lattés ? Et qui faisait une typologie des consommations de café comme un marqueur social, et je pense que ça a du sens d'ailleurs.
Vous voulez dire qu'il y a un aspect documentaire qui peut aider le sociologue dans les articles de Tom Wolfe ?
Il y a un sociologue américain très estimable qui s'appelle Joel Best, qui a écrit un papier intitulé « Oui, Tom Wolfe est un sociologue et nous dit des choses pertinentes sur le statut ». Enfin, moi, je dirais que oui, Wolfe a un œil, et que ça, c'est une chose où souvent les journalistes sont meilleurs que les gens qui font des sciences sociales. C'est d'abord dans le temps qu'ils sont disponibles pour faire du terrain dans un certain nombre de cas, et puis dans des capacités d'écriture, de restitution. Enfin, eux, ils ont le droit de faire des dialogues, de faire des portraits, de raconter, de mettre des descriptions, ce qui va paraître inconvenant dans une revue de sociologie. Donc de ce point de vue-là, oui, il y a à apprendre de ces auteurs et de ces journalistes. Oui.
Alors il y a un certain nombre d'articles qui ont conduit Tom Wolfe vers ce nouveau journalisme. Il n'y est pas arrivé comme ça d'un coup. Vous citez un certain nombre d'entre eux. Il y a l'article que vous avez déjà évoqué sur le New Yorker qui disait que ce journal était très mal dirigé par William Shawn. Et puis il y en a un autre sur des voitures de course qui étaient tunées, des voitures de tuning. Ça, c'est un peu la première pierre, finalement, arrivée presque par hasard dans son évolution vers l'invention du nouveau journalisme.
Oui, ça doit être une des... Enfin, en tout cas, c'est le premier papier marquant qui va le pousser vers la gloire. Donc, ça doit être en 62, il s'engage auprès de la rédaction d'Esquire à écrire un papier. Alors, en fait, il doit y avoir deux objets sur lesquels il intéresse. Il y a des courses de hot rods, et puis il y a ces gens qui customisent leur voiture avec des couleurs éclatantes et qui font la course. Il traîne à rendre son papier. Les choses s'enveniment un peu avec la rédaction qui a dû, j'imagine, payer d'avance. Et la légende, parce qu'il a une capacité immense à l'entretenir, dit qu'il renvoie ses notes brutes de coffrage juste précédées d'un mot qui dit « Dear Byron », et que le Byron, je ne sais plus comment, retire ce petit chapeau et publie les notes telles quelles. Et effectivement, c'est un article qui est aussi coloré, qui est aussi déjanté.
Il y a des onomatopées, voilà. On entend les voitures passer.
Il reproduit les bruits de voitures qui tournent. Et ça, c'est quelque chose qui marque très fortement, enfin, et par l'objet et par la forme. Alors qu'au fond, bon, même s'il a cette écriture à lui, c'est peut-être son côté conservateur, il a toute une théorie comme quoi les renouvellements littéraires et journalistiques viennent par les objets, par le fond, moins que par la forme. On peut dire que lui, il fait les deux, mais il y a effectivement ce déplacement du regard, s'intéresser à la vie quotidienne, au changement des styles de vie. Il écrit sur les surfeurs, sur des micro-objets de ce type. Et de ce point de vue-là aussi, enfin, sociologiquement, il y a une intelligence. Il voit des choses qui changent et il a une espèce de flair pour les identifier très tôt.
C'est là où c'est aussi intéressant, Éric Neveu, parce que il est de toute évidence un conservateur. Ses racines littéraires plongent aussi dans le 19e siècle et pas, disons, dans le nouveau roman. Mais quand même, il revendique d'apporter de la nouveauté, d'apporter aussi quelque chose qui est aujourd'hui, on dirait, disruptif par rapport à ce qui se faisait avant.
Oui, alors, ce qui est à la fois vrai, enfin, puisqu'il va formaliser quelque chose comme un cahier des charges d'écriture du New Journalisme, l'accent mis sur les dialogues, ce qu'il appelle third person point of view, où la même scène va être racontée du point de vue de l'acteur, de son interlocuteur, éventuellement d'une tierce personne, le principe de décrire scène par scène, comme dans un scénario de cinéma, l'écriture indicielle, qui va être d'accumuler des détails sur des habits, des décors, des façons de parler pour marquer socialement, entre autres, les statuts.
Donc il y a une recette, hein, vraiment, du nouveau journalisme.
En tout cas, ex post, il a systématisé. Je suis pas sûr un seul instant que si on appliquait les quatre critères à la vingtaine d'auteurs qui contribuent au recueil, on vérifierait à chaque fois. Enfin, et en même temps, il y a un côté merveilleusement culotté, parce que le third person point of view, c'est pas lui qui l'invente. Enfin, on retrouve ça dans les Stream of Consciousness chez Joyce. Si on relit le Tandis que j'agonise de Faulkner, ça marche sur cette polyphonie, enfin qui est un procédé classique qu'on retrouve plus tard dans le Last Orders de Graham Swift. Mais bon.
Donc voilà, il n'invente rien pour vous.
Si, je dirais qu'il réinvente. C'est-à-dire qu'effectivement, là où il a sans doute raison, c'est qu'il y avait eu un tarissement peut-être de cette veine de reportage. Elle n'avait jamais complètement disparu, mais elle s'était un peu affaiblie dans les années 30-50. Mais si on revient en arrière, enfin, alors il a sa singularité stylistique, mais dans ce qu'on a appelé le mouvement du muckraking, ces journalistes fouille merde qui dénoncent les turpitudes des machines de parti, l'enrichissement des barons voleurs aux États-Unis, enfin, et y compris dans les manières de travailler. C'est Nellie Bly qui saute d'un ferry dans le port de New York pour voir au bout de combien de temps les secours vont arriver. Mm-hmm. Donc on avait des journalistes qui payaient de leur personne. Elle s'est fait interdire dans un hôpital psychiatrique, qui faisait vraiment du terrain.
Comme Florence Opna a pu le faire, par exemple, avec le Quai de Ouistreham, bien des années plus tard.
Oui,
c'est peut-être une inspiration aussi, Tom Walsh, pour elle, qui sait.
Non, je pense que dans ce cas-là, c'est Barbara Ehrenreich qui l'avait fait avant elle, le mesquin autorien à la qualité de l'excellent livre de Florence Opna. Mais oui, c'est cette dimension-là.
J'ai analysé quatre choses qui transforme la fiction en quelque chose qui sont plus attirantes qu'un roman. Tout d'abord, c'est la construction scène par scène, commencée par les gangsters dans l'entrée du tribunal. Deuxième point, c'est un dialogue extensif. Il y a tout, comment ces gens se parlent entre eux. Troisième point, c'est très peu compris, ça, mais c'est très puissant. C'est noter les statuts, les détails du statut, c'est-à-dire les styles de vie des gens qui indiquent quelle est leur place dans le monde. Le maître, c'était Balzac. Balzac commençait un chapitre avec trois pages qui décrit le mobilier dans au domicile de quelqu'un. Et dans la description, il en dit tellement des gens. Ils ont des rideaux très élaborés qui sont comme du tissu damassé. Et en fait, c'est du coton mercerisé. Mais ça vous dit tout. Ça vous dit tout sur les gens qui habitent dans cet appartement et qui tentent de faire paraître qu'ils sont autre chose. Et lorsque véritablement les gens rentrent dans la pièce, à ce moment vous êtes intéressé sur ce qu'ils vont dire. Bon, c'est un petit peu à l'extrême, mais personne ne peut plus écrire trois pages comme ça aujourd'hui.
Tom Wolfe au micro de François Bunel. Alors il voulait écrire un journalisme qui puisse se lire comme un roman qui serait dans le style de Dickens, de Balzac ou même de Zola, qui est une de ses grandes références, Éric Neveu.
Oui, alors là aussi, il est très sélectif parce que dans ce manifeste du nouveau journalisme, il essaie de se trouver des ancêtres et alors il élimine implacablement pour des motifs tantôt très rationnels, tantôt très biaisés, toutes sortes d'antécédents et il se trouve quelques...
Quels antécédents élimine-t-il ?
Ben, par exemple, je pense à un antécédent récent, contemporain. Mais il dit voilà, on dit Baldwin, mais non, ça c'est des trucs ethnographiques. Et en plus, il raconte sa vie, donc il c'est pas une vraie enquête où on lui dit mais il y a tel journaliste il y a 50 ans qui avait raconté un combat de boxe de manière très précise. Il dit oui, mais il a pas fait comme Gate Alliz, un de ses collègues. Il ne l'a pas suivi pendant des semaines. Donc c'est pas comparable et effectivement il ne sauve qu'un nombre très limité d'antécédents comme par exemple Dickens, enfin il a cette formule, il nous dit que des fois quand on lit Dickens on arrive très bien à se représenter un personnage dont il est question bien qu'il ne l'ait pas décrit et que c'est à travers des échanges entre les personnages qu'on a vu s'égrener des indices qui nous permettent de nous représenter y compris physiquement avec beaucoup de précision ce personnage qui ne fait pas l'objet d'un portrait pour autant.
Mais ça, encore une fois, Hemingway le fait. D'autres encore le font. On va parler de Bret Easton Ellis dans la seconde partie de cette semaine. Est-ce que un écrivain aussi, comme Bret Easton Ellis, qui vient plus tard, n'utilise pas, d'une certaine façon, ne recycle pas, selon vous, un certain nombre de ses méthodes ?
Si, si, bien sûr. Enfin, je pense justement à cette idée de l'écriture indicielle, d'accumuler les détails, dans American Psycho. Enfin, il y a des chapitres que moi j'appelle une écriture à l'étiquette de prix, où on va savoir.
Ou à la carte de visite.
Voilà. Combien coûte le costume Hugo Boss, ou le tout autre attirail. Mais ce qui en même temps est à la fois fonctionnel, dans la description de ce monde où il n'y a que l'argent et la surenchère, statutaire qui compte, mais enfin, on pourrait aussi dire Pérec d'une autre, toute autre manière.
Donc les choses de Pérec plutôt.
Oui, ou la vie mode d'emploi,
même la vie mode
ou la tentative d'épuisement d'un lieu parisien. Oui, mais peut-être plus la vie mode d'emploi que les choses encore.
Est-ce que, à la fin des fins, dans cette école du nouveau journalisme, on n'est pas plus du côté de la littérature que de l'information ? Il y a un certain nombre d'articles qui faisaient partie de cette mouvance, je pense à Saturday Night Fever, qui ensuite a donné la matière pour le film, dont on s'est rendu compte qu'il était en très grande partie faux. Et c'est vrai que c'est un style très romancé, qui donne envie, sans doute, quand on en écrit, de déraper un petit peu. C'est peut-être d'ailleurs ce qu'on a parfois reproché, ce soupçon-là pesé, en tout cas, sur les adeptes du nouveau journalisme.
Oui, c'est ce qu'on a reproché. Enfin, il y avait même eu un papier retentissant dans la New York Review of Books qui parlait de para-journalisme, mais c'était un para extrêmement péjoratif, c'était du faux journalisme, où il y a un très joli passage de Richard Hogarth dans des écrits un peu de circonstances, il est publié en la presse, où il dit que Monsieur Wolfe est toujours plus soucieux de nous impressionner et de s'assurer que son style pétarade que de l'exactitude de ce qu'il raconte.
C'est ce qu'on disait aussi à l'école de journalisme de Columbia, où on n'aimait pas beaucoup ce style-là. Je pense que ça a bien changé depuis, ou maintenant aux États-Unis,
oui,
dans les écoles de journalisme, on aime
temps,
bien le journalisme narratif.
Je suis porté à... Non pas qu'il n'y ait jamais eu de probablement de bidonnage ou de liberté de prise avec le réel, mais je pense que si on regarde les grands noms du New Journalisme, je pense pas qu'on les ait pris souvent la main dans le pot de confiture. Tout au plus, on a pu reprocher à certains, je pense à quelqu'un qui s'appelait Gaethje, d'avoir fait des collages, c'est-à-dire par exemple, d'avoir fait un personnage de prostituée qui prenait des éléments chez plusieurs prostituées réelles et qui les agglomérait, et elle ne l'a pas dit, ce qui effectivement est une forme de faute éthique si on est journaliste. Ce qui est aussi très frappant, c'est que c'est un journalisme qui, d'une certaine manière, va s'évanouir presque aussi vite qu'il est né. C'est-à-dire, il y a une espèce de floraison merveilleuse pendant une dizaine ou une douzaine d'années, et puis ça tombe en panne à partir de la seconde partie des années 70. Et on va voir réapparaître ce qu'on va appeler le new journalisme dans les années 80, qui a peut-être moins de séduction littéraire, moins d'attention portée à la forme, mais qui, du point de vue de la variété, de la qualité des enquêtes, enfin, est quelque chose d'absolument extraordinaire.
Dernière chose, Éric Neveu, on a reproché à ce nouveau journalisme d'être davantage du côté du divertissement que du côté de l'information. Aujourd'hui, tout le système médiatique et journalistique s'est décalé du côté du divertissement, à la télévision notamment, mais aussi, pourquoi pas, dans les journaux. Est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose de très précurseur, justement, de l'ère du temps qui a été saisi par Tom Wolfe?
Ben, je suis pas forcément d'accord. C'était un journalisme divertissant au sens où on avait du plaisir, parfois du bonheur à le lire parce que c'était bien fait. Mais moi, je pense qu'un journalisme qui s'intéresse à des gens modestes, à des micro-changements culturels, je dirais qui mijotent plus qu'ils ne sont éruptifs, c'est un excellent journalisme. Si on avait ça en France, on serait peut-être pas si surpris par l'émergence des Gilets jaunes.
Merci beaucoup Éric Neveu. Merci. De l'Université de Rennes et de l'IEP en particulier. On va continuer à parler de Tom Wolfe juste après la chronique.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Chronique qui vous est proposée aujourd'hui par Marianne Payot, rédactrice en chef adjointe du service livre de L'Express. Bonjour Marianne. Bonjour. Avec aujourd'hui un interlude de Hugolien, vous nous parlez non pas d'un livre, mais d'une maison.
En effet, mais pas n'importe laquelle. Puisqu'avec le dramatique incident de Notre-Dame de Paris, Victor Hugo était sur toutes les ondes ces derniers temps. Et son roman, Notre-Dame de Paris, s'est vendu comme le dernier best-seller venu. Mais il y a d'autres raisons plus réjouissantes d'évoquer le grand homme. Je veux parler ici de la réouverture à la mi-avril et après 18 mois d'intenses travaux, de l'étonnante demeure anglo-normande de l'auteur des Misérables. Je veux dire Hauteville House. François Pinault, on le sait, est le premier mécène à s'être manifesté pour la reconstruction de la cathédrale parisienne. Et c'est également lui qui a financé à hauteur de 3,5 millions d'euros la restauration et la restitution de la maison du poète. Laquelle est, comme vous le savez, située à Guernesey sur les hauteurs de St. Peter Port. Il s'agit d'ailleurs de l'un des moteurs du tourisme dans l'île. Au même titre, il faut le signaler, que le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates, phénomène éditorial mondial publié il y a quelques 10 ans.
Il fallait le dire.
Cette maison, propriété depuis 1927 de la ville de Paris, avait grand besoin d'un réel rafraîchissement. Et c'est ce qu'a rappelé Anne Hidalgo, venue inaugurer en grande pompe ce chef-d'œuvre de l'art décoratif en compagnie du milliardaire et collectionneur d'art breton.
Alors à quelle époque Victor Hugo a-t-il séjourné à Hauteville House, Marianne?
Eh bien, Victor Hugo a acquis cette maison le 16 mai 1856, grâce notamment à la vente des deux premières éditions des Contemplations qu'il avait pris soin de placer en Belgique et en Angleterre. Cette maison fut un achat précieux, puisqu'elle mit fin à plus de 4 années d'errance depuis le soir du coup d'État du 2 décembre 1851. Le statut de propriétaire qu'elle donnait à Hugo empêchait en effet qu'il ne soit expulsé. Cette maison, c'était aussi un havre de paix, qui lui permit de retourner à l'écriture après quelques années d'engagement politique. La Légende des siècles, Les Misérables, mis de côté en 1848, Les Travailleurs de la mer, William Shakespeare, L'Homme qui rit ou encore Torquemada y furent écrits. L'exil convenait parfaitement à l'auteur de Notre-Dame de Paris. D'ailleurs, sur sa terre d'accueil, il compose, dessine et décore inlassablement. Et c'est guidé par sa seule fantaisie qu'il conçoit derrière la façade extérieure un détonnant kaléidoscope. Cette façade, austère et minérale, qui a d'ailleurs retrouvé aujourd'hui son gris d'origine. Le réel résulte de la combinaison toute naturelle de deux types, le sublime et le grotesque, écrivait Victor Hugo. Et Hauteville House en est l'illustration parfaite. Dès l'entrée, le visiteur a l'impression d'être hébergé dans une caverne d'Ali Baba, mêlant le style gothique à des décors chinois. Et chaque pièce, du sol au plafond, est recouverte d'une double peau composée au choix de tapisseries, soieries, faïences, lacs, miroirs et tableaux, certains rapatriés de la rue de la Tour d'Auvergne, ou d'autres, la plupart, chinés par le poète avec ses proches.
Donc Hauteville House, c'est à la fois une scène et un décor.
Oui, cette maison est l'œuvre à part entière du dramaturge. Elle est surtout marquetée de citations, de devises, de vers, qui évoquent tout autant des préceptes d'hygiène, la célébration des génies de l'humanité, que les convictions républicaines de Victor Hugo. Le peuple est petit, mais il sera grand. Dans tes bras sacrés aux mères fécondes, aux libertés saintes, aux pas conquérants, tu portes l'enfant qui porte le monde. De quoi peut-être faire méditer la mère de Paris. De l'obscurité du vestibule et des premières pièces, on s'achemine vers la lumière par la cage d'escalier, comme on accède au progrès, à l'image de l'homme montant des ténèbres à l'idéal. On passe par la bibliothèque riche de 3000 ouvrages, de Shakespeare à Corneille. On emprunte la théâtrale galerie de Chênes, d'inspiration renaissance et gothique. Et on pénètre dans le fameux lookout, serre en bois et verre dont la vue domine l'archipel de la Manche et la côte française. C'est ici, dans cet atelier bureau, que le maître rédigeait, debout, seul, face aux éléments, deux panneaux de bois rabattus le servant de table d'écriture. Encore un couloir étroit et on tombe sur la chambre monacale de l'écrivain, donnant elle aussi sur le jardin où Victor Hugo plantait le 14 juillet 1870 son chêne des États-Unis d'Europe, évoquant l'espoir d'une paix durable. Moins de deux mois après, la République était proclamée. Et Victor Hugo rentrait triomphalement à Paris.
Et voilà qui donne envie d'aller se promener à Guernesey. Merci beaucoup Marianne Payot. Vos articles sur la littérature et la vie littéraire sont à retrouver chaque semaine dans l'Express. Vous êtes bien sûr France Culture et c'est la compagnie des auteurs au deuxième jour d'une mini-série consacrée à l'écrivain américain Tom Wolfe. À l'occasion de la parution dans la collection Bouquins chez Robert Laffont, un volume regroupant ses deux premiers romans, Le Bûcher des Vanités et Un homme, un vrai. Nous sommes à présent en compagnie du journaliste et romancier Éric Nehoff, auteur notamment du dictionnaire chic de la littérature étrangère, c'est aux éditions Écriture. Avec lui, nous allons évoquer en particulier le dernier roman de Wolfe, Bloody Miami, paru en 2013, et dont voici un extrait dans lequel il est question de Nestor, le flic cubain cool de Miami.
Nestor ne voyait pas vraiment tout ça. La lueur rosâtre, l'éclat du soleil, le bleu vide du ciel, les éclairs des reflets. Mais il savait qu'ils étaient là. Il ne pouvait pas vraiment les voir parce que bien sûr, il portait des lunettes de soleil. Pas noires, mais les plus noires. Magno noir, Supremo noir. Avec une barre imitation or reliant les verres sur la partie supérieure. Celle de tous les flics cubains cool de Miami. $29.95 chez CVS. Une barre en or, baby. Tout aussi cool, son crâne rasé avec juste une petite hélisurface plate de cheveux au sommet. Encore plus cool, son cou de taureau. Plus cool et pas facile à obtenir. Il était maintenant plus large que sa tête et semblait fusionner avec ses trapèzes. Là, des ponts de lutteur, baby. Et des haltères. Un harnais de tête avec des poids. Voilà le truc. Sur un gros coup, une tête rasée ressemblait à celle d'un lutteur turc. Autour de ce cou de taureau pendait une fine chaîne en or avec une médaille de cette sainte tellement cool de la Santeria, Barbara, patronne des artilleurs et des sapeurs qui reposait sur sa poitrine sous sa chemise. La chemise. C'était le problème avec la patrouille maritime. Un flic cubain comme lui, affecté à la police des rues, veillait à porter une chemise d'uniforme à manches courtes, trop petites d'une taille pour mieux souligner le moindre renflement de chaque formation rocheuse, et plus particulièrement dans son cas les triceps, ses gros muscles à l'arrière du bras. Il considérait les siens comme le triomphe géologique suprême du triceps dans le miroir. Si tu étais vraiment cool et cubain, tu faisais retoucher le fond de culotte de ton pantalon d'uniforme, beaucoup, jusqu'à ce que, de dos, tu aies l'air de porter un moule-boule à manches longues. Le meilleur moyen de faire craquer toutes les rebitas dans la rue.
Une lecture par Pierre-Marie Baudouin. Bonjour Éric Nehoff.
Bonjour.
Alors dans votre dictionnaire chic de la littérature étrangère, vous consacrez une notice à ce livre, Bloody Miami, qui avait donc paru chez Laffont en 2013. Vous êtes d'ailleurs un petit peu sévère avec ce livre. Vous n'aimiez pas beaucoup, c'était non, pas non, le meilleur pour vous.
Je l'aime beaucoup, mais comme on avait lu les trois précédents, la surprise n'était pas tellement au rendez-vous. Il sait très bien faire, comme on l'entend dans l'extrait, là, c'est presque sa fiche signalétique. Là. C'est
ah oui, pourquoi ? Qu'est-ce qu'on entend qui lui ressemble tant ?
Sa fascination pour les descriptions physiques très très précises, son attention aux vêtements, cette façon de décrire un personnage de l'extérieur tout en disant ce que lui a dans la tête, le « c'est cool, c'était encore plus cool », ça, il sait très très bien le faire. Et les prix de tous les vêtements, des voitures, de toutes les choses dont il parle.
Dire que les lunettes ont été achetées au CVS, ouais, et
oui,
pas ailleurs.
Il s'intéresse à la mode et puis ça définit la profession du personnage, son statut social et puis aussi son état d'esprit, puisque ce flic, il a beau être dans la police maritime, avec ce qui va lui arriver, il va être rétrogradé, si on peut dire, dans la criminelle banale.
Alors vous dites quand même que Tom Wolfe, surtout dans ce dernier livre, a des tics de lecture. Vous parlez de phrases qui bombent le torse, d'une prose bruyante et tapageuse.
Mais un petit peu, c'est son signe particulier, ça. Il écrit avec un klaxon, lui. C'est comme... Il a un côté DJ qui aurait une corde de brume là, pour qu'on l'entende. Il y a plein de phrases en majuscules, des onomatopées, des points d'exclamation partout. Et il a surtout une oreille. Il écoute les dialectes, il connaît les argots de toutes les communautés et il sait que le langage définit les gens. D'ailleurs, le livre commence par une engueulade pour une place de parking entre deux femmes, une américaine pur jus et une hispanique. Et on voit que les injures sonnent comme des chansons de rap, même si Tom Wolfe détestait le rap, en bon vieux réactionnaire qu'il était.
On se demande si il ne faut pas des boules-caisses pour lire Tom Wolfe.
Oui, qui écrit... ça, j'exagère un peu, mais non, mais il y a
c'est
de
votre
ça,
style,
c'est que
Eric Neuf.
C'est que il a toujours fait ça, que ce soit dans ses articles et dans ses romans. Et là, je regrette presque d'avoir dit que c'était pas son meilleur, parce que c'est vraiment son dernier. On n'aura plus de romans de Tom Wolfe là. On en est sûr, même si avec le temps qu'il mettait pour en rédiger un. S'il était toujours vivant, peut-être qu'il n'aurait pas publié le nouveau, là, avec toutes les recherches dont il avait besoin. Mais c'est un auteur très important et puis très très drôle. Là, on voit bien là tout ce qui se passe. Tous ses romans, et surtout celui-là, sont un peu fabriqués de la même façon. Il prend un endroit, en général une ville, un fait divers qui risque de faire exploser toute la société. Et il y a toujours à l'arrière-fond la peur de l'émeute raciale, la peur du scandale, les blancs qui sont terrorisés, les noirs qui ne s'entendent pas entre eux, les hispaniques, puisque à Miami, la majorité de la population est désormais hispanique, ce sont les blancs qui sont la minorité. Et il arrive à parler de ça, des dealers de drogue, d'une vidéo d'une descente chez ces dealers qui est filmée sur YouTube. Et c'était déjà Rodney King, où l'affaire Benalla l'aurait beaucoup amusé, j'imagine. Et on voit le patron du journal conservateur ne sait pas quoi penser de cet incident. Le maire est terrifié à l'idée que sa ville va s'embraser. Ce qui ne l'empêche pas à côté de décrire l'inauguration de la fameuse foire Art Basel avec les milliardaires qui s'entretuent pour avoir un petit four, un oligarque russe qui leur a fourgué pour des millions de dollars des faux tableaux. Et toute cette société, là, c'est vrai que ça éclabousse. On a l'impression d'être dans un comic strip avec des bulles de bande dessinée. Et il y a trop de choses, toujours. Il est généreux, c'est comme un buffet à volonté. On prend avec Tom Wolfe.
Mais est-ce que ce n'est pas justement ça le sujet de ce livre, Bloody Miami? Le communautarisme, le multiculturalisme, le racisme. En fait, dans ce livre, il y a une peur un petit peu de tout le monde d'être considéré comme raciste. Le maire qui est cubain a peur qu'on le traite de raciste. L'oligarque, visiblement, aussi. C'est ça le sujet pour vous?
C'est ça, et c'est aussi la frilosité de toutes les élites et le fait que le multiculturalisme, pour Tom Wolfe, ça ne marchait pas. C'était quelque chose qui était toujours sous cloche, mais qui menaçait d'ébullition à la moindre étincelle. Et il y a ça dans tous ses romans. Hein. C'est toujours un peu aussi l'histoire d'une chute, que ce soit des milliardaires, des promoteurs immobiliers ou un petit flic cubain qui vivait avec puis une infirmière. Il trouve toujours des professions hallucinantes. L'infirmière, elle est assistante d'un médecin qui guérit les addictions au sexe.
Alors, mais ça existe, hein.
Sûrement, la preuve.
Alors, vous dites qu'il est conservateur. C'est vrai qu'il l'est, un peu sur tous les plans. Sur l'architecture, par exemple, je ne sais pas si vous avez en tête ce petit livre qui s'appelle
Sur l'art moderne. Mais d'ailleurs, on voit là aussi beaucoup avec la caricature, enfin la caricature qui n'en est sans doute pas une, de Art Basel là-bas. Mais oui, puis c'est son côté snob aussi. Il avait compris que le vrai snobisme, c'était pas d'être pour le modernisme, mais au contraire de jouer le vieux ronchon, mais avec beaucoup d'humour et de style. Moi, ce que j'aime chez lui, c'est qu'il a inventé un style qui est le sien, que beaucoup de gens ont essayé de copier sans parvenir à sa cheville.
Comme qui, par exemple?
Oh, un peu Bret Easton Ellis au début. Mais maintenant, il a trouvé sa propre voie. Beaucoup de journalistes aussi ont essayé de faire ça, même en France. Et la langue française ne marche pas du tout. Et même les traductions de ces morceaux de bravoure sont beaucoup moins bien en français qu'en américain.
On a l'impression que lui-même utilise dans ses livres, on le disait un petit peu en première partie de cette émission, des techniques, des stratégies de la société du spectacle pour pouvoir exister dans une société qui est devenue vraiment la société du spectacle. Les romans de Tom Wolfe, Eric Neuf, il vous attrape quand même, il vous lâche pas.
Ah oui, complètement, mais il a toujours une idée de départ formidable. Son premier roman, Le bûcher des vanités, là, ce milliardaire qui va chercher sa maîtresse à l'aéroport de New York et qui se trompe de bretelle, enfin c'est elle qui conduit, qui se trompe de bretelle d'autoroute et qui se retrouve à minuit dans le Bronx, rien que ça, on continue. Et il est formidable parce qu'il a un œil, en plus d'avoir une oreille, c'est que les femmes ont toujours peur de prendre un kilo de trop, et je me souviens que dans Le bûcher des vanités, il décrit une soirée et il y a toutes ces femmes blondes refaites, alors il les appelle les tartes au citron ou les rayons X, disant que le cumul des deux n'est pas interdit.
That's being done. Hip hop is something that is being lived. A rap artist can be anybody from anywhere, but you've got to visit the Bronx. Look at the projects, look at the people, see the environment that hip hop started in. Go to
La Compagnie des Auteurs sur France Culture. Alors Eric Neuf, vous qui êtes à la fois journaliste et puis peut-être surtout romancier, est-ce que vous avez l'impression que Tom Wolfe est d'abord un chroniqueur ou est-ce que c'est quand même vraiment partout un romancier ?
Oui, il avait adapté au journalisme les techniques du roman. Peut-être qu'il n'était pas encore prêt à en écrire, surtout les siens qui sont d'énormes pavés, mais ça a été sa gymnastique pendant des années. Et on voit qu'il inventait beaucoup de choses là. Quand il racontait là dans le gauchisme de Park Avenue la réception qu'avait donnée Leonard Bernstein pour les Black Panthers, c'est presque du roman. Et moi, j'avais découvert ça en lisant son recueil de nouvelles qui date d'il y a très longtemps, bien avant ses romans, où déjà, je me souviens, je les ai pas relus, je les ai apportés là. Il y en a la première nouvelle, c'est un romancier célèbre qui est dans son bureau et qui revoit toute sa vie en consultant les talons de son chéquier, l'école de son fils, la réfection de l'appartement, les chaussures de sa femme. Et ça, c'est vraiment une idée formidable. Et il y a une autre nouvelle où une jeune divorcée de 25 ans qui est pleine aux as parce qu'elle touche des pensions alimentaires, elle s'aperçoit, elle est assise avec son décorateur qui lui est à genoux de dos sur la moquette en train de chercher le coloris du futur papier peint, que c'est le seul homme qu'elle peut encore voir sans se disputer. Et il a vraiment ça. Et toute cette technique lui a servi. On voit bien que il y a des ruptures de ton, il y a des passages obligés. On reconnaît tout de suite sa façon d'écrire. Lui, il a inventé quelque chose, là.
Donc il y a 4 romans, hein.
Oui.
Ça paraît finalement.
Oui, 4 romans,
beaucoup.
Pratiquement 25 ans. C'est pas énorme, hein, mais ça lui demandait beaucoup de travail, hein, aussi. Hein,
Et on avait l'impression, dites-vous, qu'il ouvrait une grande carte des États-Unis.
Ouais.
Et qu'il fermait les yeux. Ouais. Hop, il mettait son doigt quelque part sur la carte et il se disait voilà, je vais écrire un roman sur cette ville-là.
Il se débrouillait pour que le doigt ne tombe pas sur le village où a été tournée Délivrance. C'était plutôt New York ou Miami parce que là, la société est toujours présente et contradictoire. Et là, c'est vraiment son terrain de jeu. Hein. Il fallait qu'il décrive tout ça, l'argent, le pouvoir, le sexe et puis son côté réactionnaire le rendait beaucoup plus drôle parce que c'était pas quelqu'un qui se catastrophait de tout ça. Au contraire, on sentait presque une réjouissance perverse à voir ça, là, à voir ce monde s'effondrer. Faut pas oublier que c'est un sudiste à la base, hein. Donc c'est pas les types les plus ouverts à toute la nouveauté qui soit.
Donc il y a New York dans Le bûcher des vanités, Atlanta dans Un homme, un vrai, Miami évidemment dans Bloody Miami, et puis bon, les
plus
campus...
l'université de Charlotte Simmons ou ce...
Mais on sait pas où c'est exactement.
On sait pas où c'est, mais enfin c'est quand même un vieux monsieur qui devait avoir 75 ans à l'époque, qui s'est mis dans la peau d'une étudiante de 20 ans. Et on voit dans le roman que les choses ont changé sur les campus depuis le groupe de Mary McCarthy.
Donc, géographiquement, chaque livre a son endroit et chaque livre a sa décennie. Ça aussi, c'est tout à fait fascinant. Les années 80 pour Le bûcher des vanités, 90 pour Un homme, un vrai, les années 2000 pour moi, Charlotte Simmons, et puis 2010 dans Bloody Miami. Là, on voit qu'il y a quelqu'un qui est un chroniqueur de son époque et qui est aussi, du coup, un journaliste de façon très concrète.
Ouais. Non, et puis quelqu'un qui sent les vibrations de la société. Là, c'est par hasard si Le bûcher des vanités, c'était Wall Street à l'époque, et que Bloody Miami, c'est le monde de l'art et la drogue. Et l'argent est là, le vrai pouvoir est là. Désormais, il l'avait compris, ça, que le blanchiment de l'argent se passait dans l'achat de tableaux dans le monde entier, que les oligarques russes n'allaient pas arranger les choses, que les mafias allaient prendre en main tout ça sans le dire à personne. Et ça le... Non, la preuve aussi que c'est un vrai romancier, un très bon écrivain, c'est que on n'arrivait pas à adapter ses romans au cinéma. Brian De Palma avait fait une tentative calamiteuse avec Le bûcher des vanités.
Alors ça, c'est un peu votre avis, mais moi, il me semble que c'est un film qui n'est pas si mauvais et qui est même très bon.
qui en plus a donné lieu à un livre de journalisme sur le tournage et la sortie du film très très drôle, là, dont j'ai oublié le titre.
Alors moi non plus, je ne l'ai pas.
Bah, lisez-le surtout si vous aimez le film.
J'aime beaucoup le film, je le conseille aux auditeurs, il faut qu'ils jugent, qu'ils nous en parlent. Dans votre livre, Le dictionnaire chic de la littérature étrangère, si on prend toutes les occurrences de Tom Wolfe, d'abord il y en a beaucoup, vous en parlez pas mal, et vous le liez alors à certains écrivains, par exemple Scott Fitzgerald. Est-ce qu'il y a du Scott Fitzgerald chez Wolfe, enfin plutôt le contraire?
Le côté dandy et puis le côté du provincial fasciné par les riches. Ouais. Il y a ça chez Tom Wolfe, il adore ça, les riches, leur milieu, leur code, et pour lui c'est comme le passé pour dans le roman ou le film Le Messager, c'est la richesse est une terre étrangère et il veut à tout prix visiter ce pays, mais pas en touriste, presque à voir son visa, sa carte verte.
Mais alors justement, est-ce que c'est un gonzo journaliste? Parce que vous le liez aussi à Hunter S. Thompson. Mm. Pourtant, on ne peut pas vraiment dire que Tom Wolfe se soit impliqué de la même manière que Thompson dans ses enquêtes.
Mais ça, c'est peut-être le côté admirateur de Balzac et de Zola. C'est le romancier était en germe, sans doute, parce que Hunter Thompson, c'est presque lui la vedette, hein, c'est pas tant, mais il faut qu'il soit là. C'est que, alors que lui, non, c'est très neutre, et on sent que ça lui demandait énormément de temps pour écrire un article. Hein, d'ailleurs, les gens disaient que pour qu'il rende son article, il fallait vraiment qu'il y ait une date de remise de copie impérative, sinon c'était pas possible d'avoir le papier.
On espère que vous ne faites pas la même chose, Éric Neuhoff.
Au dernier moment aussi, mais moi c'est un quotidien, j'ai des excuses.
Bret Easton Ellis aussi, dont on va parler à la fin de cette semaine. Ouais. Est-ce que le New York de Tom Wolfe, c'est le même que celui de Bret Easton Ellis? On y retrouve les traders, les gens qui travaillent dans la finance, mais Bret Easton Ellis est peut-être allé quand même plus loin en faisant des meurtriers, un meurtrier.
Oui, avec American Psycho, mais c'était un peu ces années-là. Hein, mais c'était aussi le New York de Jay McInerney, qui lui aussi est très Fitzgeraldien, et même dans le style. Mais Bret Easton Ellis, American Psycho, est un très très grand roman, un truc visionnaire, vraiment unique. La preuve, c'est que ça a été un scandale énorme, que ça a été refusé par son éditeur américain, refusé par son éditeur français d'origine, et que le livre est toujours là, et le film est excellent.
Ah, je l'aime pas trop, moi, pour le coup.
Les auditeurs peuvent également, sur le tournage,
sur Twitter, nous donner leur avis. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, quelques secondes, sur politique. Est-ce que vous avez l'impression que Tom Wolfe est un sismographe, qu'il a prévu aussi, par exemple, l'arrivée de Trump?
Mais je pense que ça l'aurait réjoui. Je ne sais pas s'il l'aurait prévu, mais c'est un personnage de Tom Wolfe, Trump, le milliardaire à la chevelure carotte comme ça, qui est plus ou moins homme d'affaires, vaguement escroc, égocentrique, marié à un mannequin complètement refait. Ça l'aurait vraiment enchanté. Mais c'était presque trop romanesque pour qu'on le mette dans un livre.
Merci Eric Neuf.
Merci à vous.
Je rappelle que votre dictionnaire chic de la littérature étrangère est disponible aux éditions Écriture et que vous avez publié en 2018 un recueil de nouvelles aux éditions cette fois du Rocher intitulé Les Polaroïdes. Et puis encore un grand merci à Eric Neveu de l'IEP de Rennes d'être venu nous parler en première partie du nouveau journalisme de Tom Wolfe. C'était La Compagnie des auteurs, une émission de Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Garance Mazelier, Florent Bujon et Pierrick Monsigny. Demain, on poursuit notre semaine américaine, mais par une nouvelle mini-série consacrée donc à Bret Easton Ellis. Mais tout de suite, c'est le moment de la poésie et c'est comme chaque jour avec Jacques Bonafé.
Bonjour, bonjour la compagnie, la chair, beau désert. Oui, le poème vient à nous parfois comme du miel, on en parlait hier, mais aussi, il faut pas se mentir, c'est un bon bouillon bienfaisant, la poésie. Hein, ça se rapporte à la sobriété heureuse, méditation sur l'essentiel et l'abstinence. Tiens, je suis tombé sur le chapitre « L'anorexie de l'existence » dans le livre de Caterina Angelica Rook, « Au miel des anges ». Je dis merci à ce qui me manque. Ce que je n'ai pas me protège contre ce que je vais perdre. Avançons vers un autre poème, l'aliénation de l'attirance. La chair, elle vieillit, Caterina, alors elle déplore. La chair s'est changée en page, la peau en papier, la caresse en notion abstraite, le corps en théorie nouvelle sur l'existence. Et oui, comment décrire la nature alors qu'elle m'a laissé tomber et que c'est seulement à la première de l'automne qu'elle se souvient parfois de m'inviter. J'espère trouver le courage d'exprimer une volonté ultime, voir un bel homme dévêtu pour le souvenir, pour conserver le corps masculin comme dernière image, lui qui n'est pas matière, mais la surnaturelle substance de l'avenir. Car tel est le plaisir, toucher le périssable, pour écarter la mort. Et voilà, Caterina Angelica Rook, elle n'est pas ce qu'on appelle correctement une senior. Disons que c'est une vieille poétiquement incorrecte. Violation. Tu es mal et impénétrable, mais moi, tes creux féminins, je les viole tous. Je te pousse vers l'intérieur de toi avec le doigt, la langue, instrument de mon impuissance. Oh, toi qui es long, comme la flûte oubliée par Dieu sous le peuplier, dans l'affolement du désastre. Je veux te conquérir de l'intérieur, d'où partent tes pensées et tous tes sucs. Sans respect pour la fleur, j'ai l'intention d'user de moyens artificiels afin de me retrouver sous la coupole de ton corps et me rafraîchir dans l'ombre de ton temple jusqu'à ce lieu secret d'où sourdent fraîches tous les matins les bonnes raisons de ton parfait bout de chair avant qu'elle n'éclate en splendeur. Elle en veut, Caterina. Ce que donne et prend la poésie quand sous le poids d'un nuage, tout le dedans de ton corps fléchit, lorsqu'un seul regard gratte d'anciennes blessures, lorsqu'un handicap neuf en ouvre de nouvelles, lorsque les phares du ciel à faible distance de ton avenir s'allument et que les réserves de vie amassées ne suffisent plus, lorsque te ronge une tristesse qui n'arrive pas encore, lorsque la douleur est sans nom, sans couleur, alors la poésie, telle une main tendre, touche ton front et te fait croire que ton dessin est noble, que ta poésie rend compte de ton âme.
Jacques Bonafé qui nous lit cette semaine des textes de poètes grecs contemporains.